Nous vous souhaitons la bienvenue pour un nouvel épisode de Litre Amour en compagnie de Sigurd Brinkmann et de
Clarisse Cosset.
Le septième épisode de notre podcast est consacré au roman Le bras de Pollack, qui n'a pas encore été traduit en français, mais dont nous espérons que cela aura prochainement lieu. Qui était Pollack ? On aimerait vite le découvrir, mais l'écrivain Hans von Trotha prend son temps pour dévoiler le mystère. On comprend qu'il s'agit d'un drame dont un homme veut apporter le témoignage. Un homme qui ne sait pas par où commencer, car il vient de passer la nuit en compagnie de Pollack, qui lui a raconté toute sa vie, ses joies, ses doutes et ses blessures les plus intimes. Cet homme est effondré. Il avait une mission et a échoué. Hans von Trotha a choisi d'écrire un dialogue fictif. Le 17 octobre 1943, en fin d'après-midi, le professeur K se trouve au Vatican et rend compte à Monsignor F de sa tentative de faire en sorte que Pollack quitte rapidement son appartement situé dans le Palazzo Odescalchi. C'est l'homme d'église qui fait le protocole du récit de K.
À cette époque, on savait encore à Rome qui était Pollack. Il était né en 1893 et était venu, jeune archéologue, s'installer à 25 ans dans la ville de ses rêves. Rapidement, il s'était fait un nom parmi les collectionneurs et marchands d'art antiques. Pendant plus de 30 ans, il avait mené sa carrière d'historien de l'art en Italie. Il était membre honoraire de l'Institut allemand d'archéologie, directeur honoraire du musée Baracco, commandant de l'ordre de Saint-Grégoire.
Peu de personnes se rappellent aujourd'hui de cet homme qui a été déporté à Auschwitz en 1943. Hans von Trotha a pour la première fois entendu parler de lui lorsqu'il a lu le roman semi-biographique de Helga Schütz intitulé « Sepia ». L'histoire de cet homme l'a littéralement obsédé.
J'avais pendant un moment pensé à écrire un grand roman. Constantinople et Rome en 1900, Gerhard Hauptmann arrive en voiture décapotable, quelque chose dans ce genre. Ces images, elles sont là. Et puis, je me suis dit, non, le sujet ne se prête pas à cela, il faut aller à l'essentiel. J'ai tout de suite eu mes personnages, je croyais que ce serait facile, mais je me suis aperçu combien il m'était difficile d'écrire comme si j'étais une victime de la Shoah la veille de sa déportation. Mais qui suis-je donc pour avoir le culot de faire cela? Et puis, je me suis dit que j'allais le faire parler lui-même. Et j'ai écrit une première version qu'on appellerait à la radio du pur reportage. Elle était faite d'extraits de son journal et de passages de ses lettres, et j'ai adapté mon style au sien. Si bien que mes premiers lecteurs et lectrices ne savaient pas d'où ça provenait. Mais le style était tel que mes lecteurs m'ont dit « Plus personne ne veut lire ça. Ce style-là, on n'en veut pas. C'est trop éloigné de la façon dont on parle maintenant. Cela crée une trop grande distance. » J'ai essayé ensuite d'employer le discours indirect, puis j'ai imaginé que c'était lui qui écrivait, et au bout de la cinquième, sixième version, j'ai enfin osé dire « je ». Ce que j'avais cité et ce que j'avais moi-même écrit s'est mélangé, et soudain j'ai trouvé le style qu'il fallait. Cela a été un processus très très long pour en arriver au texte que nous avons maintenant.
Ludwig Pollack a été assassiné, tout comme sa femme et ses deux enfants. Le 16 octobre 1943, au matin, les citoyens juifs de Rome furent raflés par des troupes SS. Ils ont été internés dans des casernes militaires et déportés à Auschwitz deux jours plus tard dans des wagons de marchandises. Le 16 octobre était jour de Shabbat, un jour de calme et de recueillement pour les juifs. La veille, des informations concernant des listes de gens, une rafle imminente, avaient circulé dans la ville. On avait mis certaines personnes en garde. Des voisins cachèrent leurs voisins. Près de la moitié de la communauté juive de Rome a pu être sauvée ainsi. Des 1295 juifs déportés, seuls 16 sont revenus des camps d'extermination.
La communauté juive de Rome était très particulière. C'est une des communautés juives les plus anciennes du monde. Elle n'est ni ashkénaze ni séfarade parce qu'elle est encore plus vieille que cela, et le pape est le saint protecteur des juifs de Rome. Et effectivement, jusqu'à cette date, il ne leur était rien arrivé. Et puis il y a eu une histoire très bizarre. On a exigé des juifs de Rome de réunir 50 kilos d'or, sinon 200 juifs seraient envoyés vers l'Est. 200, pas 2000. Ils l'ont fait. Au musée juif de Rome, il y a une vitrine où on voit les reçus. Et il y avait régulièrement des alertes. On disait que quelque chose allait se passer. Mais rien ne s'est passé. Plus j'ai essayé de me connecter au mode de pensée de Ludwig Polak, plus j'en venais à me dire, bon là, c'est la 15e fois qu'on nous prévient et il va se passer quelque chose. Eh bien, même s'il se passe quelque chose, ils ont besoin de moi. Et puis, que ferait-il d'un vieil homme?
Ludwig Polak et sa famille auraient pu trouver refuge au Vatican. La façon dont Hans von Trotha décrit la nervosité grandissante qui s'empare de K, le personnage fictif du professeur, est bouleversante. K ne veut pas s'asseoir. Il se dirige à plusieurs reprises vers la porte et essaie plusieurs fois de rappeler à Ludwig Polak de quoi il en ressort. Ludwig Polak est plongé dans ses souvenirs, qu'il quitte par moments pour être très présent. Theodor Daneke, un haut responsable SS et un proche collaborateur d'Adolf Eichmann, avait fait procéder à des rafles en France et en Bulgarie. En 1943, il commença à faire la chasse aux Juifs à Rome, Milan, Bologne, Florence, Sienne et Venise. On n'a jamais su pourquoi Polak, qui était alors âgé de 75 ans, a refusé la proposition qu'on lui avait faite de se réfugier avec sa famille au Vatican.
Also meiner Meinung nach sind vier oder fünf oder sogar sechs verschiedene Antworten.
À mon avis, il y a 4 ou 5 réponses possibles à la question de savoir pourquoi il ne s'est pas sauvé. Il est intéressant de constater que les gens n'en voient qu'une ou deux dans le livre et que de ce fait, ils en font une lecture très différente. Il y a ceux qui disent qu'il l'a fait de manière absolument consciente. Il y a ceux qui disent ce que de nombreuses personnes et même des personnalités se disaient alors. Oui, ils viennent rafler les Juifs, mais pas moi. Et d'autres disent il était vieux et malade. C'est bien sûr la question de savoir pourquoi il ne s'est pas sauvé qui m'a poussé à écrire le livre. Et plus je me suis penché sur la question, plus j'ai trouvé des raisons qui justifiaient sa décision. Le dernier élément que j'ai trouvé, et qui est certainement un élément décisif, je l'ai découvert dans ses journaux intimes. Il n'était pas un juif orthodoxe, il était complètement assimilé. Il n'est allé que très tard à la synagogue de Rome, mais dans les dernières années de sa vie, il était de plus en plus contraint à être juif. Et à la fin, il ne lisait plus que des auteurs juifs et n'était en contact qu'avec des connaissances juives. Et à ce moment-là, c'est du moins ce que j'imagine, il se pose la question, si c'est là le sort des juifs, qui suis-je quand on vient me rafler? Et il se demande, est-ce que les autres vont eux aussi être sauvés? Et je pense que cela a joué un grand rôle dans sa décision de ne pas aller se réfugier au Vatican.
Dans le roman, le professeur K essaye à plusieurs reprises d'inciter Ludwig Polak à quitter son appartement. Il tente de lui faire comprendre combien la situation est dangereuse, mais Polak ne se laisse pas interrompre dans son flot de paroles et de pensées. Il semble être en accord avec lui-même lorsqu'il se met à décrire divers objets d'art et plusieurs personnes de sa connaissance. Pendant la nuit qui précède la rafle, cet amateur et collectionneur d'art sent qu'il doit aussi aborder des sujets délicats.
Der war schneidend scharf, der konnte auch wirklich sehr, sehr giftig werden, wenn sich in die Enge gedrängt gefühlt hat.
Il était d'une intelligence très aiguisée et pouvait aussi devenir désagréable quand il avait l'impression qu'on voulait le coincer. Il a toujours mis énormément d'énergie dans ce qu'il faisait, mais soudain, il ne voit plus de perspective. Il n'y a plus de chance de s'en sortir, ni pour lui, ni pour sa famille. Il avait 3 enfants, une de ses filles était morte peu auparavant. Les 2 enfants qui restaient étaient dépressifs. Ils n'avaient pas de travail et sa femme était diabétique, mais les Juifs ne pouvaient plus recevoir d'insuline. Il y avait un poids énorme qui pesait sur tout. Et cela a certainement joué un rôle dans la décision de ne pas s'enfuir, de ne pas dire « Allez, viens, on fait les bagages et on monte dans la voiture ». Il ne considère pas vraiment cette option comme possible. Ce que j'ai imaginé, mais qui m'a semblé naturel, c'est qu'il utilise cette situation pour sauver sa vie, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Il dit « Ok, prends-la ». Et comme symbole, il donne au professeur K ce tableau qui est une sorte de sous-marin provenant de sa collection et qu'il destine à l'avenir. Cela m'a paru évident. parce qu'il s'agit là de la seule rédemption possible pour quelqu'un qui regarde à la fois sa vie passée et les ruines de celle-ci dans lesquelles il se trouve. Savoir que sa biographie va être sauvée, c'est de cela que ce livre parle. Finalement, de ce que l'on peut garder, de ce que l'on doit garder.
Und davon handelt das Buch ja letzten Endes, dass man das bewahren kann, muss, soll. Rom war alles. Rom war schon als Kind sein Fluchtpunkt, vor allem wegen Goethe.
Rom était tout pour lui. Rom avait déjà été son lieu de prédilection. Et pas seulement à cause de Goethe. Il voit à Goethe une admiration quasi obsessionnelle qui avait presque quelque chose de satirique. Toutes les formulations qui expriment son admiration pour Goethe sont de lui. Il avait lu Le Voyage en Italie alors qu'il était enfant. C'était pour ainsi dire son livre. C'était là qu'il voulait aller. Et puis il a étudié l'archéologie. Qu'il n'ait pas pu devenir professeur d'université parce qu'il était juif a été une grande vexation pour lui. Il s'est dit, bon, je vais devenir marchand. Il faut savoir qu'à cette époque, le commerce des œuvres antiques florissait à Rome à cause de l'agrandissement de la ville. Dans les années 1880-1890, la ville avait été remodelée et de nombreuses découvertes archéologiques étaient faites. Ce n'est donc pas un hasard qu'on ait trouvé tant de choses à cette époque. Et lui, Pollack, avait un statut particulier. C'était une période bénie pour ceux qui faisaient des fouilles. Les cardinaux, les gens fortunés et les collectionneurs s'en sont mis plein les poches. Et Pollack a reconnu de nombreuses œuvres d'art qu'il a permis de reconstituer. Il voyait de nombreuses choses que les autres ne voyaient pas. C'était quelque chose qu'il a grandement cultivé et enseigné parce qu'il avait les connaissances requises. Arnold Nesselrath est depuis longtemps le directeur des antiquités des musées du Vatican. Je lui ai longuement parlé pendant la préparation de ce livre et il m'a donné de nombreux conseils, ce qui a été merveilleux pour moi. Au cours d'une conversation, il a appelé un jour Pollack un virtuose du regard et je trouve que c'est un mot très juste pour le caractériser. À Rome, Pollack était au sommet de sa gloire. L'historien de l'art Wilhelm von Bode, par exemple, n'allait que chez lui quand il venait à Rome. Il est allé chez Liebermann à Dresde, à Copenhague, à la maison Liebig à Francfort. Tout le monde lui demandait son avis. Il a garni tous les musées du monde. Les collectionneurs privés lui demandaient de faire des catalogues. Il les conseillait. Et lui-même avait une collection considérable. C'était sa vie.
Pollack rencontra à Rome Auguste Rodin et observa comment celui-ci dessinait la fontaine de Trévi. Il parcourut la ville en voiture avec Richard Strauss. Ses amis les plus chers étaient le directeur de musée Wilhelm von Bode et surtout Wilhelm Fröner, qui avait été lecteur à la cour de Napoléon III avant de devenir archéologue et conservateur au Louvre. Dans son beau livre, Hans von Trotha a disséminé de très jolis portraits d'artistes tombés dans l'oubli, tels le peintre Max Levy, qui vivait avec son chien qui mourut jeune. Il habita pendant un moment dans la maison qu'avait occupée Rilke. Rome était tout pour Ludwig Pollack, mais soudain, en 1915, les autorités italiennes ne virent en lui plus qu'un juif pragois. La guerre battait son plein et Pollack fut extradé.
Le fait qu'on l'envoya justement à Vienne a été terrible pour lui. Il a toujours détesté Vienne et l'Autriche. Il a été enrôlé et a dû porter cet uniforme. Sa première femme est morte pendant la fuite. Et après, il n'a jamais réussi à remonter la pente. Ils ont essayé de le déchoir de sa nationalité, puis de l'exproprier. Ils n'ont cessé de lui faire des tracas et ne l'ont plus laissé tranquille. Il a toujours eu des amis et des alliés, notamment le directeur général des musées du Vatican, qui l'a soutenu jusqu'à la fin. L'a aidé et même, c'est quelque chose de bouleversant, a écrit une lettre aux autorités allemandes, que je cite à la fin du livre, pour leur demander de libérer Pollack parce qu'il avait tant fait pour la culture. Mais il était alors déjà à Auschwitz, ou bien s'en approcher. On voit bien là que les gens n'avaient pas la moindre idée à qui ils avaient affaire. Et je crois aussi que Pollack lui-même ne se doutait pas à qui il se livrait.
En 1918,
l'appartement de Pollack et sa collection ont été confisqués par les autorités italiennes. s'y trouvaient 9000 lettres dans lesquelles on supposait des secrets politiques. Hans von Trotha a découvert dans ses recherches que le directeur des Antiquités avait à l'époque répandu les soupçons qui pesaient sur Pollack. Corrado Ricci voulait être débarrassé de ce concurrent. En 1919, Pollack a enfin pu rentrer à Rome, mais plus rien n'était comme avant. Il lui a fallu encore attendre 7 ans avant de pouvoir à nouveau voyager et reprendre son commerce.
Den Charakter prägt ja, dass er immer zurückgesetzt
wird. Cela a eu une influence très forte sur son caractère, le fait qu'il ait toujours été évincé. En tant qu'Allemand et juif à Prague, on ne lui a pas donné accès à une carrière universitaire. Il n'avait que le droit d'être marchand d'art. C'est pourquoi il a fait des catalogues d'art et il parlait en termes peu élogieux des professeurs d'université. Il dit à un moment, nous, les marchands, nous faisons les expertises justes. Si un professeur d'université se trompe, il reste quand même en place alors que nous, nous sommes fichus. On sent une grande fureur et une immense fatigue. Il a eu sa période dorée entre 1900 et 1915. Il vit alors dans cet incroyable appartement. Il a sa famille, il a sa collection. Les gens viennent le voir. Et puis, peu à peu, cela s'amenuise. L'immeuble est démoli. Il doit quitter le pays. Il ne le laisse pas retourner à Rome. Et puis, on lui confisque sa collection. Les nationalistes arrivent, puis les antisémites, puis les fascistes, et il est poussé dans ses derniers
retranchements.
Il n'y a plus de traces de lui, pas de tombe, il n'y a pas eu d'adieu, rien de tout cela. Cela vaut bien sûr pour toutes les victimes de l'Holocauste, mais quand on commence à se pencher sur la question, cela devient autre chose que la simple information que les choses se sont passées ainsi. On ne peut se raccrocher à rien. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup douter, d'autant que je viens, pour ainsi dire, du côté des coupables. Ce qui m'a aidé, c'est que lui, Pollack, ne s'est jamais vu en tant que victime. Au contraire, il se voyait comme une personne forte, comme une personnalité devenue un scientifique de renom, comme quelqu'un qui a résisté, et qui a prouvé qu'il pouvait faire de grandes choses si on le laissait faire et qui savait beaucoup de choses que les autres ignoraient.
Deux petites expositions en l'honneur de Ludwig Pollack ont eu lieu au Musée Barocco et au Musée hébraïque de Rome. Hans von Trotha a écrit à cette occasion un texte sur la correspondance entre Ludwig Pollack et Wilhelm Fröner. Il était là lorsque le grand rabbin de Rome a dit le Kaddish pour Ludwig Pollack.
Ludwig Pollack pouvait aisément reconstruire une œuvre d'art à partir des morceaux qui la composaient. Son œil avisé reconnaissait les jonctions. Le nom de Pollack reste à tout jamais lié à celui d'une sculpture antique des plus connues, le groupe du Laocoon.
Le groupe du Laocoon est une copie romaine en marbre d'une sculpture grecque antique en bronze représentant le prêtre troyen Laocoon et ses deux fils, Antiphas et Timbré. Elle date d'environ 200 avant Jésus-Christ. Des serpents de mer s'enroulent autour des corps des figures mythiques dont les visages expriment la douleur. En 1506, le groupe de Laocoon, que les écrits de Pline l'Ancien avaient rendu célèbre, fut découvert dans des vignes à proximité du Colisée. Après sa victoire en Italie, Napoléon fit amener la statue à Paris. Le bras droit de Laocoon avait été perdu pendant le transport. C'est par hasard que Ludwig Pollack découvrit un jour de 1903 cette partie de la statue qui joue un si grand rôle dans l'histoire de l'art.
Il faisait sa promenade du dimanche avec son petit garçon et il a vu, chez un marbrier, ce morceau de marbre qui n'est vraiment pas beau. Il a immédiatement reconnu que c'était un bras avec un serpent enroulé autour et que cela devait appartenir à la statue de Laocoon. Il a demandé depuis combien de temps elle était là et il se trouve qu'elle venait d'être apportée. Ce qui veut dire que si Ludwig Pollack n'était pas passé par hasard ce dimanche-là, ce morceau de sculpture aurait à nouveau disparu. Cela aurait certainement été très pratique pour l'histoire de l'art en général et notamment pour l'archéologue Johann Joachim Winckelmann. Pollack savait ce qu'il avait trouvé. Il en a parlé au directeur général des musées du Vatican et tout d'abord gardé le bras en marbre. Puis, il l'a offert au Vatican. L'histoire de Laocoon, c'est aussi celle du cheval de Troie. Laocoon se doute que le cheval n'amène rien de bon et il lance un javelot vers la construction en bois. Ce qu'on lit dans le texte de Virgile. C'est très important pour la fondation de Rome, car si Troie n'était pas tombée, Énée n'aurait pas fondé Rome. Il y a un autre mythe autour de Laocoon, qui est beaucoup plus prosaïque. Laocoon était un prêtre. Il n'aurait pas dû avoir d'enfants, mais il a eu deux fils. Cela, les dieux le lui ont pardonné. En revanche, lorsqu'il se livra à des ébats amoureux avec sa femme sur l'autel, cela fut trop, et c'est pourquoi il fut puni. C'est bien sûr beaucoup plus banal, et cela voudrait dire que cette sculpture n'a été faite que pour montrer quelqu'un qui a été justement puni. Et cela, c'est absolument scandaleux.
Et puis, vor dem Hintergrund, kriegt die Stellung des Arms eine Bedeutung.
En 1905, le monde de l'archéologie a pris la découverte du bras de Laocoon. Nous lisons les lignes suivantes. Le bras droit de Laocoon n'est pas noblement tendu, mais plié, comme tordu. Avec une grandiose ironie, Hans von Trotha démontre l'homme qui, au XVIIIe siècle et après, a forgé notre image de l'Antiquité et celle de Laocoon. Johann Joachim Winckelmann avait écrit, alors qu'il contemplait une copie de la statue posée sur une table, la phrase devenue célèbre par la suite. Noble simplicité, grandeur tranquille. De l'histoire mouvementée de ce bras de marbre, on apprend également que Ludwig Pollack eut le droit d'attacher le bras à la sculpture, mais qu'il finit par douter de l'authenticité de la pièce, car son marbre n'avait pas la même couleur ni la même structure que le reste de la sculpture.
Il est vraisemblablement décédé en pensant que ce n'était pas le bras véritable de la sculpture, alors qu'on savait que c'était le bon. Je trouve cela aussi très intéressant. Dans les musées du Vatican, il travaillait avec des athlètes, des hommes qui avaient un physique semblable à celui de Laocoon. Ils observaient leurs mouvements et en ont conclu que cela ne pouvait qu'être le bras original. Que le bras ait une autre couleur et une autre structure venait du fait qu'il était resté longtemps dans la terre. Le fait qu'il paraisse plus petit était dû à la distorsion de la perspective voulue par les artistes. On est aujourd'hui quasiment sûr qu'il s'agit bien du bras original. Mais Pollack, lui, est mort en pensant que ce n'était pas le cas.
Le récit de la vie de Ludwig Pollack dans la version qu'en fait Hans von Trotha commence la veille de la rafle des Juifs de Rome et se termine au petit matin du 16 octobre 1943, alors que les SS commencent à entrer dans les immeubles pour en arracher les gens et les mettre dans la rue. On n'a aucune trace sûre de ce qui arriva à Ludwig Pollack et à sa famille après la rafle. On sait que le train qui transportait les déportés arriva le 23 octobre à Auschwitz. On ignore ce qu'il advint de l'appartement romain des Pollack. Dans la collection de journaux intimes qui reste, il manque les deux dernières années. Les archives de Pollack se trouvent au musée Baracco, où Hans von Trotha a fait de nombreuses recherches.
La conservatrice et moi avons la même impression, qu'il a dû les détruire parce qu'il était très direct, que cela aurait pu lui causer des ennuis, si on les avait retrouvés. Mais il y a une vieille dame, Margarete Guldan, qui a transcrit pour sa thèse une grande partie des journaux intimes de Pollack. Je suis allé la voir à Munich, et cette dame m'a dit de manière très énergique, « Pollack ne détruit pas ce qu'il a écrit, quel qu'en soit le contenu. » Elle pense que quelqu'un s'en est emparé, quelqu'un dont Pollack avait dû faire un portrait peu avantageux. On peut imaginer qu'il s'agit du directeur des fouilles antiques, son grand ennemi, qui a fait de nombreuses magouilles. L'appartement de Pollack est resté vide pendant 2 ans, et de nombreuses personnes devaient savoir ce qu'il y avait dedans. Ça pourrait être le prochain livre, l'histoire de cet appartement avec tous les souvenirs qu'il recèle et toutes les personnalités qui y sont passées. Je ne suis jamais allé dans l'appartement. C'est privé et il ne laisse entrer personne. Mais il y a juste en face un petit restaurant bien sympathique où j'ai souvent mangé et discuté avec les gens. Jean-Paul a dit qu'on ne pouvait pas décrire des lieux qu'on avait vus parce que cela corrompait l'imagination. Voilà pourquoi j'ai dû inventer l'appartement de Pollack.
Fantasie korrumpiert ist und das habe ich mir dann drum habe ich mir dann eben ausdenken müssen.
Le roman Le bras de Pollack est paru en mars aux éditions Wagenbach. Nous espérons qu'il sera bientôt traduit en français afin que vous puissiez le découvrir. Un grand merci à Pedro Cadivar qui nous a prêté sa voix pour synchroniser Hans von Trotha. Et maintenant, Clarisse va nous faire part de son coup de cœur.
Mon coup de cœur du mois est le dernier livre de Delphine Horvilleur, Vivre avec nos morts, qui est paru aux éditions Grasset. Delphine Horvilleur est rabbin et de ce fait quasiment quotidiennement confrontée avec la mort. Avant la pandémie, la mort restait pour elle quelque chose qu'elle pouvait séparer de sa vie privée. Il lui fallait, après un enterrement, simplement aller dans un café ou bien faire quelques courses pour se ménager un petit sas de transition entre le monde des morts et sa vie de famille. La pandémie a changé la donne. Les obsèques devaient se faire en comité réduit et Delphine Horvilleur a reçu des appels lui demandant de dire le kaddish à distance. Elle écrit « La mort était entrée dans nos lieux de vie, sans autorisation. Elle avait trouvé nos adresses et s'était faufilée chez chacun de nous. Ou plutôt, elle nous avait rappelé qu'elle n'en était jamais partie, qu'elle y avait toute sa place et que notre pouvoir se réduisait à choisir les mots et les gestes que l'on prononcerait au moment où elle surgirait. Trouver les mots et connaître ses gestes est le cœur du travail de Delphine Horvilleur. Son livre comporte le récit de nombreuses funérailles et des rituels qui entourent celle-ci, mais aussi de bouleversantes histoires qu'elle a récoltées au fil du temps. Elle nous emmène à Paris, bien sûr, mais aussi à New York, en Israël, où elle a assisté au dernier discours de Yitzhak Rabin sur l'esplanade des rois, quelques minutes avant qu'il soit assassiné. En Alsace, enfin, à Westhofen, d'où vient sa famille et où subsistent encore quelques traces du passage des Juifs qui y ont vécu et en ont été chassés. En parallèle, Delphine Horvilleur fait le récit de souvenirs d'enfance et de jeunesse la reliant au judaïsme, qui est devenu l'essence de sa vie. Elle se définit comme une conteuse. Une fois tournée la dernière page du livre, qui se termine par « Le Haïm » à la vie, on est subjugué par ce petit traité de consolation et on espère que Delphine Horvilleur va vite se remettre à l'ouvrage et continuer à nous offrir ces contes dont nous avons tant besoin.
Le livre de Delphine Horvilleur, « Vivre avec nos morts » est paru aux éditions Grasset.
Dans notre prochain épisode, qui sera mis en ligne le 15 août, nous parlerons avec la poétesse et essayiste Esther Dischereit. Son livre « Hab keine Angst, erzähl alles » N'aie pas peur, raconte tout, le récit des survivants de l'attentat de Halle, va paraître le 17 août aux éditions Herder.
D'ici là, bonne lecture, savourez l'été et partagez notre podcast avec vos amis et collègues si le cœur vous en dit. C'était Litteramour avec Sigrid Brinkmann et
Clarisse Cosset.